Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Il s'agit vraiment d'un succès historique et scientifique. En moins d'un an, un vaccin aura été mis au point et autorisé contre une nouvelle maladie.
Un cadeau de Noël avant l'heure, l'Europe dit oui au vaccin Pfizer-BioNTech, feu vert de l'Agence européenne des médicaments, puis de la Commission, première injection en France dimanche. Une bonne nouvelle tempérée par cette variante du Covid qui sévit au Royaume-Uni, potentiellement plus contagieuse. Faut-il s'alarmer? Cette mutation est-elle déjà présente en France? Réponse dans un instant de notre spécialiste santé. La Grande-Bretagne plus que jamais isolée du reste de l'Europe, liaison interrompue, vol suspendu, Eurostar à quai et camions bloqués des deux côtés de la Manche. Nous irons à Calais où les chauffeurs routiers sont livrés à eux-mêmes. Plus belle la vie pour Benoît Payan, nouveau maire de Marseille à seulement 42 ans. Il succède à Michel Rubirola, démissionnaire. Déni de démocratie, hurle l'opposition. Dans ce journal également, cette disparition inquiétante dans le Tarn, une mère de famille introuvable depuis 6 jours. Les premiers mots de Miss Provence, cible de messages antisémites sur les réseaux sociaux. Et puis le nouveau projet qui doit pérenniser les finances du LOSC, que le leader du championnat veut sortir du rouge en se qualifiant chaque saison en Ligue des Champions. Le temps de demain, encore très pluvieux sur la moitié nord, ensoleillé l'après-midi au sud de la Loire, nous dira Anissa Haddadi à la fin de cette édition. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en forte baisse, moins 2,43% à 5 393 points. Panique générale à cause de la nouvelle souche du Covid. Tous les détails à venir avec Didier Hamot de Boursier.com. L'interview Echo dans 20 minutes, à quelques jours de Noël. Est-ce que les parfums ont toujours la cote? Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag reçoivent ce soir Guillaume Motte, président Europe et Moyen-Orient de Sephora. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, Israël et la Suisse, ça y est, l'Europe a enfin approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech. Le feu vert a été donné cet après-midi par l'Agence européenne des médicaments.
Je suis très heureuse d'annoncer que le comité scientifique de l'Agence européenne des médicaments est favorable à une autorisation de mise sur le marché conditionnelle du vaccin développé par BioNTech et Pfizer. Notre avis scientifique ouvre la voie à la première mise sur le marché d'un vaccin contre le Covid-19 dans l'Union européenne. Il s'agit vraiment d'un succès historique et scientifique. En moins d'un an, un vaccin aura été mis au point et autorisé contre une nouvelle maladie. Ces vaccins vont être administrés à des millions de personnes et nous sommes vivement conscients de la lourde responsabilité que nous portons vis-à-vis des citoyens européens. Les éléments scientifiques montrent que les bénéfices d'une vaccination sont plus grands que les risques. Nous avons été guidés par une seule chose, la solidité des éléments scientifiques et rien d'autre.
La satisfaction de la directrice générale de l'AEM qui a donc approuvé ce vaccin, tout comme la Commission européenne quelques heures plus tard. Bref, le calendrier s'accélère, Jean-Jacques Herry.
Oui, il est en train de se dévoiler, hein, ce calendrier. La date à retenir, c'est dimanche prochain, 2 jours après Noël, le 27 décembre, marquera le lancement des opérations de vaccination dans toute l'Union européenne. Alors qu'en sera-t-il chez nous en France? Eh bien, le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a déjà annoncé tout à l'heure. La campagne française de vaccination débutera le même jour, ce 27 décembre. Pour la première fois, on injectera en France un vaccin contre le Covid-19. D'ici là, il faudra tout de même que la Haute Autorité de Santé donne son avis. Ce devrait être le cas mercredi ou jeudi. Alors après le quand se pose la question du qui. Seront vaccinés en priorité les personnes âgées en EHPAD et ceux qui y travaillent. Cela représente environ 1 million de personnes. Se pose aussi le défi logistique du transport de ces vaccins. Tout est prêt, la chaîne logistique est opérationnelle, affirme le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. La nouvelle mutation du virus ne semble pas poser de problème. L'Agence européenne des médicaments explique que pour le moment, rien ne permet de dire que le vaccin est inefficace contre elle.
Jean-Jacques Herry, si les autorités européennes se veulent rassurantes quant à l'efficacité du vaccin sur cette nouvelle souche du virus, sa forte contagiosité supposée suscite de grosses inquiétudes. Cette mutation du virus est problématique, a jugé ce matin Emmanuel Macron, qui appelle les Français à redoubler de vigilance. La France et de nos nombreux autres pays ont décidé de suspendre leur liaison avec le territoire britannique. On va y revenir dans un instant, mais avant, Anne Le Gall, revenons sur cette nouvelle souche qui interroge. Anne, ce n'est toutefois pas la première fois que le virus mute.
Oui, plusieurs centaines de variantes du coronavirus ont déjà été identifiées à travers le monde, et c'est normal
normal, car pour se diffuser, les virus, de façon générale, reproduisent des copies d'eux-mêmes. Et plus ils se diffusent, comme en ce moment, plus il y a un risque d'erreur dans la copie. Alors parfois, ce genre de mutation ne change rien, mais parfois, ça peut donner un avantage au virus. Ici, même si c'est encore à vérifier, la mutation anglaise semble rendre le virus 70% plus contagieux. C'est ce qui inquiète. Pour autant, elle n'entraîne pas de maladies plus graves, ni plus d'hospitalisation, ni ne met en cause l'efficacité des tests PCR, ni l'efficacité des deux vaccins Pfizer et Moderna.
Anne, est-ce que cette variante circule déjà en France ?
Il est tout à fait possible que ce virus circule déjà chez nous, a indiqué ce matin Olivier Véran sur notre antenne. Mais à ce stade, on n'en a pas la preuve, car cette variante ne figurait pas parmi les 500 souches virales analysées génétiquement ces derniers jours. Selon l'Organisation mondiale de la santé, quelques cas de cette variante ont cependant été repérés en dehors de la Grande-Bretagne, en Italie, au Danemark, aux Pays-Bas et en Australie notamment.
Merci Anne Le Gall du service Société d'Europe 1. En attendant d'en savoir plus sur cette mutation, de nombreux pays, dont la France, ont donc suspendu leur liaison avec le Royaume-Uni. Plus de ferry, ni d'avion, ni d'Eurostar. Une situation que le Premier ministre britannique Boris Johnson juge quelque peu excessive. Écoutez.
Nous comprenons totalement les inquiétudes de nos amis à propos de cette nouvelle variante. Mais nous pensons aussi que les risques de transmission du virus par un chauffeur tout seul dans son camion sont vraiment très faibles. Et donc, on espère pouvoir améliorer la situation le plus rapidement possible. Nous espérons que tout le monde réalise bien qu'à la seconde où nous avons été briefés sur la rapidité de transmission de cette nouvelle souche, nous avons mis en place des mesures décisives dès le lendemain pour ralentir la progression de cette variante dans le Royaume-Uni. Nous voulons continuer à travailler avec nos amis dans le monde, comme nous le faisons depuis le début, pour trouver de nouveaux traitements et vaccins. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer que plus de 500 000 personnes ici ont déjà reçu leur première dose.
Boris Johnson qui attend avec impatience que les pays de l'UE harmonisent leurs mesures vis-à-vis du Royaume-Uni. Il faut dire que pour l'heure, c'est chacun pour soi. Une réunion a eu lieu ce matin en urgence à Bruxelles pour tenter de mettre en place une approche commune sans succès pour le moment. Et c'est d'autant plus problématique que cette mise sous cloche du Royaume-Uni a aussi des conséquences. En France, à Calais, le port est depuis la nuit dernière pratiquement à l'arrêt. Les transporteurs routiers ne savent plus quoi faire, faute d'avoir la garantie de pouvoir revenir en France. La plupart ont d'ailleurs fait le choix de ne pas traverser la Manche, Lionel Gougelot.
Oui, et c'est le cas notamment de Bruno Ringot, transporteur à Boulogne-sur-Mer. Ses camions assurent quotidiennement 3 ou 4 voyages vers l'Angleterre. Alors hier soir, il a tout annulé. Le problème, c'est que l'un de ses chauffeurs, Florent, parti vendredi, est désormais bloqué à Douvres.
Oui, il y a des panneaux sur l'autoroute qui indiquent que les camions sont stockés. Ils ont annoncé le départ 48 heures, mais sans certitude, quoi. Donc, pas plus d'infos que ça, on attend.
Il n'y a personne qui vient de dire comment ça va se passer ou quoi que ce soit. T'es livré à toi-même, quoi. Comme beaucoup de conducteurs.
Non, il n'y a rien de clair. Il n'y a pas d'infos, mis à part ce que j'arrive à dénicher sur Internet, quoi.
Une situation qui exaspère ce patron routier.
C'est l'impréparation et c'est le manque de respect à nos conducteurs qui commence à être très pénible. Et c'est inadmissible ce qu'on fait subir aux salariés du transport routier.
Et pour rentrer en France à partir de mercredi, les chauffeurs poids lourds devront subir un test de dépistage en Grande-Bretagne. Mais là aussi, c'est l'incertitude. Sébastien Rivera, délégué régional de la FNTR, la Fédération des transporteurs.
Qu'est-ce que ça coûte ? Quels sont les délais pour obtenir le résultat ? Quid si un test est positif ? Quid d'une éventuelle hospitalisation, etc. ? Il y a vraiment trop d'incertitudes. Et ce qui est agaçant, c'est qu'on n'a pas de réponse claire et concrète sur les modalités de rapatriement des conducteurs qui sont actuellement en Grande-Bretagne.
Et à cela s'ajoute évidemment les conséquences économiques pour les transporteurs. Des livraisons en Grande-Bretagne annulées, ce sont des milliers d'euros perdus pour chaque entreprise.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. La culture devant le Conseil d'État, une dizaine de recours a été déposé. Objectif contesté, la fermeture des cinémas, des théâtres et des musées décidés par le gouvernement. La plus haute juridiction administrative rendra sa décision mercredi. Autre conséquence de la crise sanitaire, le report des élections régionales et départementales en juin prochain. Le projet de loi a été entériné ce matin en Conseil des ministres. La date de convocation des électeurs sera fixée par décret au plus tard, 6 semaines avant le scrutin. Et puis aux États-Unis, Joe Biden s'est fait vacciner ce soir. Le futur président américain, 78 ans, a reçu devant les caméras sa première injection du vaccin Pfizer. Un peu plus tôt, une infirmière du Connecticut avait reçu la toute première dose du vaccin Moderna, approuvé vendredi en urgence aux États-Unis.
Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Marseille aura donc eu 3 maires différents en moins d'un an. Jean-Claude Gaudin, Michel Rubirola et Benoît Payan, le désormais ex-premier adjoint, a été élu aujourd'hui à la tête de la deuxième ville de France à l'issue d'un vote du conseil municipal. 53 voix pour, majorité absolue. La droite ne présentait aucun candidat et n'a pas assisté au scrutin. Benoît Payan devient donc à 42 ans le 47e maire de Marseille, l'aboutissement d'un long travail de l'ombre pour ce pur produit du Parti Socialiste, Stéphane Frangy.
Ah, c'est certain, lui qui a tant œuvré à l'union victorieuse de la gauche avant d'être contraint de renoncer à la tête d'affiche, son camp lui offre cette fois-ci un plébiscite, une ovation, et Benoît Payan répond par un premier discours rassembleur.
Nous avons des désaccords et nous aurons des passes d'armes. Mais je veux vous dire que je respecte vos engagements, vos histoires, nos différences. On dit parfois de moi que je suis surtout un professionnel de la politique. Cet engagement, je l'assume et je le revendique.
Mais bien évidemment, l'opposition ne l'entend pas de cette oreille. Personne ne prend part au vote et les prises de parole dans l'hémicycle sont cinglantes. Exemple avec Stéphane Ravier pour le Rassemblement National.
En ayant réalisé le casse du siècle à la société électorale, vous êtes devenu une sorte d'Albert Spaggiari du Parti Socialiste. Un cambriolage soigneusement préparé avec une bande de complices agissant, si j'ose dire, en bande organisée.
Et le camp LR de son côté fustige un maire illégitime. Un mot pour finir et plus encourageant cette fois-ci sur Twitter, Jean-Claude Gaudin se dit certain que le nouveau maire a les compétences pour assumer cette fonction et il lui souhaite la réussite dans son mandat.
Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille. L'Union européenne valide la fusion prévue dans le monde de l'automobile entre PSA et Fiat Chrysler. Bruxelles formule toutefois certaines conditions, notamment que les entreprises s'engagent à préserver la concurrence dans le domaine des petits véhicules utilitaires. Venons-en maintenant à cette disparition inquiétante dans le Tarn. Depuis 6 jours maintenant, Delphine, une mère de famille, s'est volatilisée. La trentenaire a quitté son domicile en pleine nuit et depuis, plus rien, Gladys Lafitte.
Et non, pas une seule nouvelle de Delphine. C'est son mari qui avait donné l'alerte mercredi matin, voyant qu'elle n'était pas à la maison. Selon ses proches, elle serait sortie dans la nuit de mardi à mercredi, donc vers 2h du matin, avec ses deux chiens. Deux chiens qui sont revenus seuls 2h plus tard. Cela fait donc 5 jours maintenant que les gendarmes sont à sa recherche, que les alentours de cette petite commune près d'Albi sont ratissés. Entre 50 et 80 gendarmes par jour organisent des battues avec des chiens, fouillent aussi tous les points d'eau à l'aide de plongeurs et des hélicoptères et même des drones ont aussi été envoyés en renfort, c'est dire les moyens déployés pour retrouver cette mère de deux jeunes enfants de 6 ans et de 18 mois. Alors pour le moment, aucun indice ne permet de savoir où cette infirmière se trouve, elle n'avait pas pris sa voiture. À cette heure-ci, toutes les hypothèses sont sur la table, suicide, volonté de couper les ponts ou bien la piste criminelle, rien n'est exclu. L'enquête ouverte pour recherche des causes d'une disparition suspecte continue donc.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe. Vaste coup de filet contre le trafic de cocaïne en Europe. 17 personnes ont été interpellées la semaine dernière à Bruxelles et à Anvers. 187 kilos de drogue ont été saisis. Deux des suspects arrêtés figurent parmi les plus gros barons de la drogue en Europe, selon les enquêteurs. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour injure à caractère raciste et provocation à la haine raciale après la déferlante de messages antisémites sur les réseaux sociaux visant Miss Provence, élue première dauphine dimanche samedi soir. April Benayoum avait expliqué lors du concours Miss France que son père est d'origine israélienne. Elle s'est exprimée pour ce soir pour la première fois chez nos confrères de BFM.
J'ai quand même été affectée par ce qui s'est dit. Je suis quand même choquée des propos qui ont été tenus. Ça ne m'était jamais arrivé. Dans mes élections précédentes qui ont été Miss Provence et Miss Pays d'Aix, c'est la première fois que je dois faire face à ce genre de propos. Alors j'ai décidé de porter plainte. Je n'ai pas pris d'avocat. Je pense que c'est aux autorités compétentes de faire le travail. Il ne faut pas que ça s'arrête là et il faut que on puisse sensibiliser encore les gens à ce genre de choses. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui me soutiennent encore. Merci pour tous vos messages. Ça me fait vraiment chaud au cœur.
Miss Provence, April Benayoum qui a donc porté plainte. Le gouvernement, de son côté, somme Twitter de prendre ses responsabilités et de supprimer ces messages antisémites. Un vaste réseau de fraude démantelé à l'aéroport de Roissy, réseau de chauffeurs VTC clandestins employés par des sociétés fictives. Ces structures ont encaissé sans rien déclarer au fisc les bénéfices de leurs courses, soit un pactole de 5 millions d'euros sur un an. 4 personnes ont été interpellées et renvoyées devant la justice. L'abandon d'animaux de compagnie pourrait être plus durement sanctionné. Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, souhaite le ministre de l'Agriculture. Julien de Normandie a rappelé ce chiffre honteux. Environ 100 000 chiens et chats sont abandonnés en France chaque année. On passe au football, enfin plutôt au foot business. Le LOSC, leader du championnat, a depuis quelques jours un nouveau propriétaire et un nouveau président, Olivier Létang, qui s'est exprimé pour la première fois aujourd'hui. Alors pourquoi un tel chambardement alors que les résultats sportifs sont là? Eh bien parce que côté finance, le club lillois n'était pas loin de la banqueroute, Julien Froment.
Effectivement, à quelques jours près et sans changement d'actionnaire, eh bien le club aurait été en cessation de paiement. Alors le sauveur est un fonds d'investissement luxembourgeois, Marlin Partners. Peu d'informations à son sujet, si ce n'est qu'il a racheté une partie de la dette du club et a injecté environ 50 millions d'euros. Un président a été désigné, une vieille connaissance du foot français, Olivier Létang, 48 ans, ex-directeur sportif du PSG et président du Stade Rennais. Ce dernier, qui était face à la presse ce midi, maintient de grandes ambitions sportives pour le LOSC.
Aujourd'hui, notre position, elle est d'avoir la meilleure équipe possible jusqu'à la fin de la saison. Donc notre position, elle est de ne pas être obligé de vendre de joueurs, ce qui veut dire que le challenge, il est sportif avant tout.
Ce challenge sportif implique un changement de paradigme. Le trading joueur, par exemple, vous savez, la vente des forts potentiels ne sera plus la pierre angulaire du projet lillois. Désormais, l'ambition, c'est de garder le plus longtemps possible les meilleurs éléments pour accrocher une place en Ligue des Champions, synonyme de rentrée d'argent substantielle. Voilà l'une des tâches prioritaires d'Olivier Létang dans les prochaines semaines, qui en a aussi profité pour maintenir l'actuel entraîneur Christophe Galtier dans ses fonctions.
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1. On passe à la météo. Anissa Haddadi, le temps demain sera plus agité au nord.
Oui, alors c'est simple, hein, Julien. Demain, pour toutes les régions situées au nord de l'Auvergne, demain, le ciel est gris dès le début de la journée, avec encore pas mal d'averses le matin. Au nord de la Loire, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace, le vent d'ouest souffle toujours, avec des rafales jusqu'à 70 km/h. En Occitanie et jusque sur les Alpes, en passant par le bassin méditerranéen, et bien là, la journée commence avec de belles éclaircies. Attention tout de même au bord de la Méditerranée. Demain matin, nous aurons de nombreuses entrées maritimes et parfois le ciel sera un petit peu gris. Dans l'après-midi, le soleil s'impose sur toute la moitié sud du pays, avec toujours quelques nuages bas au bord de la Méditerranée, en Corse et en Auvergne. Et puis au nord de la Loire, le ciel reste gris, avec un temps pluvieux pour toutes les régions. Alors même si nous sommes en hiver depuis aujourd'hui, eh bien sachez que demain, les températures seront toujours plus douces et plus chaudes, avec 2 à 13 degrés demain matin, 4 pour Grenoble, 8 à Marseille et déjà 12 degrés demain matin à Paris. Et puis au meilleur de la journée, comptez 12 à 19 degrés, ça grimpe encore. 12 à Dijon, 15 à Lyon et Besançon, 16 à Paris et 19 pour Biarritz.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. À quelques jours de Noël, est-ce que les parfums ont toujours la cote? Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag reçoivent ce soir Guillaume Motte, président Europe et Moyen-Orient de Sephora. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street limite la casse ce soir malgré les nouvelles inquiétudes sanitaires venues du Royaume-Uni.
Oui, la forte baisse du début de séance a été progressivement effacée. Le Dow Jones plus 0,12%. Le Dow Jones termine finalement dans le vert. 30 216 points. Le Nasdaq limite la casse, moins 0,10% seulement. 12 742 points. L'accord enfin trouvé sur le nouveau plan de relance budgétaire de 900 milliards de dollars a soutenu la tendance aux États-Unis. Et puis les banques remontent aussi alors que la Réserve fédérale a autorisé les établissements financiers à reprendre leurs achats d'actions. Ça donne JP Morgan en hausse de 3,7%, Morgan Stanley plus 5,7%, Goldman Sachs monte de 6% et Bank of America plus 4%. Il y a aussi Nike qui se distingue, qui est au plus haut. Plus 5%, record pour Nike à 144 $ après des comptes meilleurs que prévus, avec 1,25 milliard de dollars de bénéfices au deuxième trimestre. Sur les valeurs de technologie, ça baisse un petit peu quand même. Sur Tesla, qui entre aujourd'hui dans l'indice SP500, Tesla repère 6,5% à $650. Il faut dire que le titre a été multiplié par 8 depuis le début de l'année. Donc Tesla a le droit de souffler en bourse ce soir à Wall Street. Le pétrole campe au-dessus des $50 le Brent. L'euro est toujours au-dessus des 1,22-1,22-30 face au dollar.
Retour en France où la bourse de Paris a chuté en raison de toujours et toujours de la situation en Grande-Bretagne qui inquiète fortement les investisseurs.
Oui, la baisse est nette, hein. Moins 2,43% à l'image des autres places financières en Europe. Moins 2,43% sur le CAC 40 à 5393 points. Ce sont les valeurs les plus sensibles à l'activité économique qui ont rechuté assez logiquement avec cette crainte sanitaire. Le secteur pétrolier baisse nettement. Vallourec, moins 6%. Technip et CGG, moins 4%. Total, moins 3,7%. Le secteur des transports, l'aéronautique en particulier. Air France KLM, moins 4,2%. Figeac Aero, moins 4%. Airbus, moins 2,8% à 86,55€. Puis l'hôtelier Accor, recul de 3%. Les foncières aussi malmenées. Mercialis, moins 3,3%. Avec Unibail, moins 4,7%. Ou Klépierre, qui perd 1,3% ce soir.
Exception du jour, les valeurs défensives, comme vous dites, ont repris de la hauteur.
Oui, bon, c'est assez classique, hein. Quand on s'inquiète sur les marchés, on se réfugie vers les valeurs sûres. Les valeurs sûres en ce moment, bah, ce sont les valeurs pharmaceutiques, tout simplement, avec les fabricants de tests, en particulier Novacyt, fabricant de tests anti-Covid, donc plus 7%. On a aussi Biomérieux, plus 3%. AB Science remonte aussi de 3%, le secteur pharmaceutique, donc en nette hausse ce soir. Sur les autres places financières, ça baisse partout. Le DAX à Francfort, moins 2,8%. Bruxelles, moins 2,3%. Amsterdam, moins 2,5%. Madrid, moins 3%. Londres perd 1,7% et le CAC 40 donc en baisse ce soir de 2,43%, 5393 points.
Merci beaucoup Didier Hameau de boursier.com et à demain. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, Elisabeth Assayag, c'est à vous.
Bonjour Guillaume Motte.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur Europe de Sephora. Sephora, on vous connaît tous. Hein. Vous êtes la première enseigne de parfumerie en France. Ça appartient depuis 1997 au groupe LVMH. Mais on sait moins que ses origines remontent à 1973. Aujourd'hui, plus de 2500 points de vente dans le monde, dont 330 magasins en France. Vous aussi, chez Sephora, vous avez fermé toutes vos boutiques à chaque confinement. Les femmes se maquillent moins depuis le mois de mars. Puis, avec la généralisation du port du masque, ça s'est accentué. Comment ça va chez Sephora à 4 jours de Noël ?
Alors, je ne vous dirais pas que l'année 2020 était la meilleure année, puisque comme vous l'aviez dit, effectivement, pour tous les commerçants, avoir fermé 3 mois, c'est pas facile. Mais néanmoins, ce qu'on voit depuis la fin de ce confinement de novembre, c'est une très belle activité. Franchement, une très belle activité. Ça fait plaisir. On voit des clients qui ont envie de revenir en magasin, qui ont envie d'être avec nos équipes et de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres.
Quand vous dites une très belle activité, c'est-à-dire que si on regarde que le mois de décembre, quand tout était ouvert, on fait un meilleur mois de décembre 2020 qu'un mois de décembre 2019 chez Sephora ?
Alors, comme vous l'avez dit en intro, il nous reste 4 jours avant Noël, donc c'est important
c'est
de garder
ces
4 jours.
C'est souvent les cadeaux de dernière minute. Hein.
Mais à date, effectivement, on fait un meilleur mois de décembre.
Un meilleur mois de décembre.
Et on voit cette envie de donner de la joie, cette envie de faire plaisir. Si je vous prends quelques exemples, un de nos produits phares, qui était plutôt sur le mois de novembre, c'était le calendrier de l'Avent. Vous savez, puis alors là, c'est génial. Chaque jour, on ouvre une petite case, on a une petite surprise. Un jour, un mascara, le lendemain, une palette. Donc, on sent cette envie de se faire plaisir.
Donc là, typiquement, vous n'en avez jamais autant vendu de votre histoire,
les calendriers
d'Avent ?
Jamais autant vendu. Il y a un phénomène de mode. Il y a un phénomène, effectivement, très important. Et puis, maintenant qu'on s'approche de Noël, on voit le retour en force du parfum. Le parfum. Un très bel objet, un très beau produit qu'on a envie d'offrir. Un produit luxueux. Et puis, en plus, chez Sephora, on vous permet de graver le flacon. Donc, non seulement vous offrez un joli parfum, mais en plus, vous pouvez marquer Emmanuel dessus. C'est quand même super comme cadeau.
Et tout le monde en rêve, je suis sûr.
Guillaume Motte, c'est intéressant ce que vous nous dites sur le parfum, parce que le parfum, ça ne se sent pas en visio ni en télétravail. Donc, comment vous expliquez cette espèce de revanche du parfum dans une période où, on ne se sent pas les uns les autres ?
Ouais, je pense que d'abord, ça montre notre espoir de revenir à un moment, à une vie où, tout en gardant et tout en respectant toutes les distances et autres précautions d'usage, on a envie d'être ensemble, on aura envie de se retrouver. Et puis, c'est un très beau produit qui fait plaisir à offrir. Je pense qu'on aime faire plaisir et on aime se faire plaisir.
Et parmi les achats, justement, est-ce que la tendance a évolué ou ce sont toujours les mêmes parfums qui ont la cote ?
Alors, on retrouve toujours des parfums extraordinaires, de très belles maisons. Dans l'homme, un Dior Sauvage est toujours en haut de l'affiche. Un Dior J'adore, très très bon. Donc, on retrouve quand même une hiérarchie, entre guillemets, des parfums qui sont très bons.
Alors, Guillaume Motte, quand on rentre aujourd'hui dans une boutique Sephora, Il faut attendre quelques minutes, hein, règles sanitaires oblige. Et une fois à l'intérieur, les nouvelles contraintes sanitaires, ben, on ne peut pas forcément essayer un rouge à lèvres ou essayer une crème. Comment aujourd'hui, chez Sephora, on s'organise pour faire des ventes tout en appliquant ces contraintes sanitaires?
Alors d'abord, faut bien le dire, c'est la priorité des priorités dès qu'on réouvre les magasins. C'est ça qu'on a au cœur de nos préoccupations, et pour nos équipes et pour les clients. Donc vous voyez, effectivement, ça nous oblige à, je dirais, organiser nos flux de manière différente. Donc la première chose que vous verrez avant même de rentrer dans le magasin, c'est plein de petites attentions de nos équipes. Qui
alors,
donne un petit un chocolat, qui vous propose de découvrir certains produits dans la file d'attente, avant de pouvoir rentrer même dans le magasin. Et une fois qu'on est dans le magasin, on a des possibilités d'interagir avec nos clientes qui sont, pour les maquillages, par exemple, de dessiner. On dessine sur un papier ce que pourrait être votre visage, plutôt que de pouvoir toujours vous l'appliquer. Et puis, il y a certains services qu'on peut encore continuer à faire. Typiquement, chez Sephora, on a un service de sourcils qui est fait avec Benefit. Et ça, en toute sécurité.
Que vous aviez arrêté au mois de mars, pourtant.
Qu'on avait arrêté au mois de mars, mais dans les nouvelles conditions de déconfinement, on est autorisé à le faire.
Vous pensez que ces nouvelles règles sanitaires, cette nouvelle façon de travailler, va finalement perdurer au-delà, peut-être même du vaccin? On réapprend à avoir un lien différent avec le client ou la cliente?
On voit des vrais changements et qui, à mon avis, certains vont rester. Pendant le deuxième confinement, pendant tout le mois de novembre, on était autorisé à faire du click and collect, par exemple. Vous savez, vous passez votre commande sur Internet et vous allez la chercher en magasin. Ça a représenté énormément de commandes et de manières de consommer de nos clientes. Et ça reste. Ça reste aujourd'hui. Deuxième possibilité qu'on avait développée, aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet, vous pouvez, avec un clic, rentrer en visio, en vidéo, avec certaines de nos conseillères directement, qui viennent vous conseiller alors que vous êtes chez vous et qu'elle est en magasin, sur le produit de soin, la bonne crème à acheter.
C'est-à-dire que tendanciellement, vous vous préparez à avoir moins de monde dans vos magasins, avoir une expérience cliente différente dans les magasins?
On est déjà et on continue à effectivement avoir de plus en plus de relations personnalisées avec nos clientes, d'avoir de plus en plus de relations plus intimes, je dirais, dans la connaissance avec cette cliente. Ça, c'est vrai que ça change et ça durera tant que les flux clients seront plus faibles.
Guillaume Mott, tous nos témoins, toutes les patronnes et les patrons qui viennent depuis plusieurs jours nous disent, comme vous, que ce Noël se présente finalement pas si mal pour leur entreprise. Moins de monde dans les magasins, mais ceux qui viennent, ceux qui font, qui se déplacent, là, on est sûr qu'ils vont acheter, qu'ils vont passer à l'acte.
C'est ce qu'on observe aussi. Il y a une vraie notion de, quand je vais en magasin, j'arrive soit avec ma liste de cadeaux, soit avec une intention ferme de me faire plaisir ou de faire plaisir. Donc oui, on voit beaucoup plus de visiteurs acheteurs que de visiteurs flâneurs.
Avec un panier moyen de...
C'est des informations qu'on garde pour nous.
Bon, mais il est en hausse ou il est...
Ben, on regardez, achète plus regardez, vous pouvez être dans les files d'attente. Vous voyez qu'on a 2-3 produits, donc ça dépasse 100 euros souvent.
Ah ben voilà quand même.
Ben, c'est pas mal. Hein.
Merci beaucoup Guillaume Mott, directeur Europe et Moyen-Orient de Sephora. Merci à vous Elisabeth Asseag. On se retrouve demain dans La France Bouge de 13h à 14h. Notre invité sera Pierre Courcière, le PDG du Furet du Nord et de Deux Citres.
C'est noté. Merci à vous deux, Emmanuel Duteil, Elisabeth Asseag, et à demain. 22h28 sur Europe 1, et voici donc ce que pourrait lire demain à la une de vos journaux. L'invité surprise de Noël, titre Libération. Cet invité, c'est le nouveau Covid N501Y. C'est le petit nom de cette variante qui affole l'Europe, qui du coup se barricade. Rien n'indique à ce stade qu'elle ne provoque une forme plus grave de la maladie. Et les vaccins en cours de déploiement semblent toujours efficaces. En revanche, elle semble se propager plus rapidement. Son taux de croissance est 71% plus rapide. C'est en tout cas ce qu'affirment les premières analyses des scientifiques britanniques. Une nouvelle souche à la grimace, écrit malicieusement Libé dans ses pages intérieures. L'Angleterre redevient ce qu'elle n'a jamais cessé d'être, une île, écrit Denis Domin dans la Nouvelle République. Le continent se cadenasse comme une coquille Saint-Jacques, celle que nos pêcheurs ne pourront plus draguer à moins de se faire arraisonner par la Royal Navy, ajoute l'éditorialiste qui fait le parallèle entre les négociations sur le Brexit et ce néo-Covid volatile à l'accent cockney qui roule les airs et sature l'atmosphère. Denis Domin regrette que chaque pays du continent abandonne à Londres des dizaines, des centaines de milliers de ressortissants qui, de guerre lasse, se résignent à passer les fêtes sur place autour de roast beef à la jelly, vaguement mentholé, et de dinde bouillie absurde et décourageant, conclut l'éditorialiste de la Nouvelle République. S'il avait voulu avoir un avant-goût d'un Brexit dur, Boris Johnson est cette fois servi, renchérit Gilles Sanges dans l'opinion qui ajoute « Au vu des perturbations que connaît son pays, il a l'occasion rêvée, s'il le voulait vraiment, de convaincre les siens que ce n'est pas le bon moment pour un no deal. Mais à l'évidence, même un no deal n'aurait pas un effet aussi dévastateur », écrit Patrick Saint-Paul dans le Figaro, car contrairement à la réalité provisoire imposée par le Covid, les personnes continueront de circuler entre les deux rives et les échanges de marchandises se poursuivront avec les règles de l'OMC. Pour la presse populaire britannique, cela ne fait aucun doute, la mise sous cloche du Royaume-Uni par l'Europe serait une mesure punitive face à l'intransigeance de Londres dans les négociations sur le Brexit. Leur coupable est tout trouvé, rapporte l'éditorialiste du Figaro, c'est Emmanuel Macron, un président français sans pitié, écrit par exemple The Sun. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous ?
Je commence la semaine avec un petit chat dans la gorge.
Ah, ça va s'améliorer.
Ça va s'améliorer.
Un petit peu de miel et quelques auditeurs au 3921 pour vous appeler et ça ira tout seul jusqu'à 1h du matin.
Exactement. Et on se retrouve dans une demi-heure pour le flash, Julien.
À tout à l'heure.